Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le débat du jour. Croissance en berne, provisions financières en hausse. C'est un budget des mauvais jours placé sous le signe du Brexit qui a été présenté aujourd'hui à la Chambre des communes à Londres. Et il vaut sans doute mieux être prévoyant puisque les négociations entre le gouvernement britannique et les Européens ont manifestement bien du mal à avancer. Des accords sur la facture à payer par le Royaume-Uni pour se défaire de ses engagements, sur les droits des expatriés, sur la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, sans compter les discussions sur la future relation euro-britannique. Un accord sur le Brexit est-il impossible ? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Patrick Martin-Jeunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Et Jean-Yves Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France, membre de la Commission des Affaires européennes. Alors je le disais, les négociations sur les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont débuté il y a plusieurs mois. La sixième session s'est achevée il y a quelques jours et une décision doit être prise lors du prochain Conseil européen à la mi-décembre sur la suite à y donner. Il y a manifestement des difficultés, Jean-Yves Lecomte. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Ah, bah, c'est très clair que pour l'instant, c'est des négociations compliquées parce que finalement, nous n'avons rien à demander. C'est le Royaume-Uni qui s'en va. Maintenant, il faut effectivement arriver à, finalement, comme dans un divorce, mais sans juge. Et c'est pas du tout évident parce que c'est la première fois que l'Europe fait finalement engage une négociation pas pour converger avec une autre entité mais engage une négociation avec une partie d'elle-même pour se défaire et tout reste à inventer dans une démarche qui n'est pas très rationnelle parce que le Brexit lui-même n'est probablement pas très rationnel.
Oui, on se demande parfois si certains Britanniques ne regrettent pas un petit peu ce qui s'est passé. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes d'accord vous aussi, la négociation paraît assez difficile, assez vaseux, si je peux dire ça comme ça.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison, c'est complètement vaseux, d'autant plus vaseux d'ailleurs que David Davis, qui est le ministre chargé du Brexit, a dit que c'était désormais à l'Union européenne de faire des concessions, alors que de son côté, il n'en a fait aucune. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement bizarre, ce qui se passe. On est d'accord sur rien, Michel Barnier l'a dit d'ailleurs à l'issue de la sixième session, où il avait dit, on n'est pas d'accord sur le droit des citoyens, de l'Union européenne au Royaume-Uni et l'inverse, on n'est pas d'accord sur la frontière de l'Irlande du Nord, on n'est pas d'accord sur la facture, bref, on est d'accord sur rien, et on bloque complètement sur ces négociations, et les Anglais voudraient un peu de mauvaise foi dire que c'est de la faute de l'Union européenne, alors que c'est à eux de faire des propositions. Mais je crois qu'en réalité, la grosse difficulté ne vient pas de Bruxelles, elle vient essentiellement du Royaume-Uni, où la situation politique est extrêmement bloquée, et où Theresa May, la première ministre, est en situation, n'est pas en situation d'imposer sa ligne politique, et on l'a encore vu récemment en début de semaine.
Jean-Yves Lecomte, vous êtes d'accord, la faiblesse politique après les dernières élections générales de Theresa May rend cette négociation encore plus difficile ?
Encore plus difficile, mais de toute façon, le problème, c'est que ils ont dit le Brexit, Brexit mean Brexit, mais après, qu'est-ce que ça veut dire ? Finalement, c'est pour gagner de la souveraineté. Mais si c'est pour gagner de la souveraineté en se séparant complètement de l'Union européenne, c'est pas notre intérêt, c'est pas leur intérêt. Et à la base, nous n'avons aucun accord avec aucun pays qui permet la liberté de commerce sans la liberté de circulation et la capacité de peser sur la norme européenne qui s'impose à ceux qui ont la liberté de commerce avec nous. Et par conséquent, finalement, ils sont en train de faire la démonstration par l'absurde que c'est très difficile d'imaginer autre chose. Et à partir de là, Theresa May, elle, je pense qu'elle-même ne sait pas où elle va. D'où sa faiblesse.
Patrick Martin-Jeunier, c'est votre opinion aussi.
Elle, oui.
C'est pas du tout. Elle-même ne sait pas à quoi s'en tenir.
Non, c'est-à-dire qu'elle aimerait avoir une ligne politique, et je rebondis tout à fait sur ce qui vient de se dire. Elle a réuni son cabinet, son gouvernement lundi. J'étais à Bruxelles, moi. Mm-hmm. Et donc, on est très inquiets à Bruxelles. Elle a réuni son gouvernement lundi pour essayer de transiger sur la facture à payer. Vous savez qu'on parlait, nous, on est entre 60 et 100 milliards d'euros.
C'est ce qui se dit à Bruxelles.
Et elle, était à peine 20 milliards. Quand je dis elle, c'est le gouvernement. gouvernement et ceux qui veulent un Brexit dur. Et donc, elle est montée à 38 milliards d'euros. Elle semble faire un progrès, mais à chaque fois qu'elle fait un progrès, on l'a vu, son discours de Florence, eh bien, elle est incapable de lire sa, de tenir sa ligne politique, parce qu'il y a des gens qui sont pour un Brexit bien dur, notamment David Davis et d'autres personnes, notamment les députés de base, ce qu'on appelle les backbenchers, qui font pression pour que ce soit éventuellement aucun accord, alors qu'on s'aperçoit que ça va être une catastrophe économique et sociale.
Est-ce que c'est pas un problème de lancer cette négociation sur le montant de la facture, Jean-Yves Lecomte ? Est-ce que c'est peut-être pas la chose qu'on devrait discuter en dernier ?
Mais c'est même pas le montant de la facture, c'est même pas le montant de la facture, c'est le principe même de ce qui peut être dû progressivement quand on quand il faudra le devoir. Michel Barnier n'a pas fixé de chiffre.
Il fixe
un principe. Parce qu'on ne connaît pas les conditions, bien entendu, de l'ensemble de la séparation, donc on ne peut pas fixer un chiffre exact. Ce ne sont que des hypothèses. Elle est particulièrement faible. On l'a vu au moment du congrès des partis conservateurs à Manchester au début.
Un grand moment de solitude pour elle.
Voilà. À partir de là, c'est sur le principe même de la manière dont on doit faire ça, sur la liberté de circulation, qui a quand même été un des éléments majeurs qui a motivé les Britanniques à voter pour le Brexit. Mais pour le coup, nous, on ne peut absolument pas négocier le droit des citoyens européens qui sont installés au Royaume-Uni, ni la capacité de la Cour de justice européenne d'être compétente pour juger les litiges après. Il y a un certain nombre d'engagements qui sont ad vitam aeternam, quoi qu'il arrive, et c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas un forfait de séparation pour solde de tout compte. Il y aura des engagements éventuellement financiers,
toujours...
juridiques, qui devront être à jamais pris en compte.
Il y aura toujours des relations, et notamment à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, Patrick Martin-Genier. Cette question de la frontière irlandaise, là aussi, on ne sait pas très bien où on va.
C'est un point extrêmement sensible, et là encore, il y a des contradictions au sein même du gouvernement.
Pour des raisons historiques, évidemment, bien sûr.
Pour des raisons historiques, parce que naturellement, il y a 20 ans, enfin en 1998, on faisait les accords dits du Vendredi Saint, notamment pour faire la paix en Irlande du Nord, et il y a eu des élections d'ailleurs en Irlande du Nord aussi, le Sinn Féin était pour rester dans l'Union Européenne, les unionistes veulent rester au Royaume-Uni, on est d'accord sur rien, mais on n'imagine pas rétablir cette frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
Parce qu'il faut se rappeler ce que c'était historiquement et dans la tête des Irlandais, c'était passer des checkpoints quoi.
Oui, tout à fait, des checkpoints.
C'était ça.
Absolument.
C'était la guerre quoi.
Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est que Theresa May serait plutôt conciliante sur ce point, alors que son ministre du Brexit, David Davis, dit l'inverse. Il est hors de question de ne plus rétablir des frontières parce que ce serait un coup. Alors que à Bruxelles, il y a, disons, certains bruits qui permettent de dire que si, par exemple, l'Irlande du Nord bénéficiait d'un statut tel que celui de Macao ou Hong Kong, qui est en Chine, et qui continue à bénéficier d'une liberté commerciale, cela pourrait être acceptable pour l'Union Européenne. Mais pour l'instant, eh bien, David Davis ne souhaite pas en entendre parler. Donc on bloque sur tout. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que disait Monsieur Lecomte, il faut en effet régler les modalités du divorce. On règle d'abord les modalités du divorce, et ce n'est qu'en dans un second terme, l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, on doit parler du commerce. Mais chaque chose en son temps, et il y a très peu de jours pour terminer cette première phase, parce qu'on doit décider de la seconde phase, le cas échéant, au Conseil européen du 14 décembre.
Le 14 et 15 décembre. Je m'adresse à vous, Jean-Yves Lecomte, parce que c'est votre spécialité. Vous êtes sénateur des Français établis hors de France. Et donc, l'un des points de blocage sur ces conditions du divorce, c'est le statut des expatriés. Est-ce que vous avez compris ce que veulent les Britanniques ? Quels sont les termes de l'échange ?
Ça a été une des motivations malheureusement principales du vote du Brexit. Hein. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, on sent déjà hein, parmi les Européens vivant en Grande-Bretagne des sentiments de xénophobie qui sont plus importants, des durcissements en matière de droit de récupérer les retraites complémentaires quand on rentre dans son pays.
Il y a des mots, qu'on n'entendait pas il y a encore un an.
J'ai même été saisi aujourd'hui de personnes qui ont été refusés de citoyens européens qui ont été refusés dans les hôpitaux britanniques parce que on leur a dit maintenant qu'il y a le Brexit, on vous soigne plus, on respecte plus les règles européennes. Donc aujourd'hui déjà c'est comme ça.
Alors que le Brexit normalement entre en vigueur le 31 mars 2019.
C'est un drame pour les gens qui ont cru que la citoyenneté européenne s'appliquerait en Grande-Bretagne ad vitam aeternam. C'est un drame aussi pour les Écossais qui dans cette affaire ont voté pour rester dans l'Union européenne, considéraient, j'en ai vu, qui s'imaginaient qu'ils sont des étudiants qui sont nés avec la citoyenneté européenne, avec la capacité de voyager en République tchèque, en Portugal, etc., qui vont se retrouver finalement limités à la Grande-Bretagne. Il y a une vraie interrogation sur ce que signifiait la citoyenneté européenne à l'aune du Brexit, sur sa crédibilité, et par conséquent, c'est absolument essentiel que l'Europe, de ce point de vue, arrive à maintenir les droits de ceux qui ont bénéficié des droits de la citoyenneté européenne au cours de ces dernières années.
Et c'est valable également pour les expatriés britanniques installés en Europe,
absolument.
Et notamment en France.
Absolument.
Ils sont très nombreux et probablement, pour la plupart, europhiles.
Et avec beaucoup de gens qui demandent une des nationalités européennes, justement, pour conserver la citoyenneté. Les droits inhérents à la citoyenneté européenne.
Beaucoup de demandes de nationalité irlandaise, notamment, voilà, d'après ce que j'ai
absolument.
Compris. On se retrouve opportunément des ascendants irlandais quand on est britannique. Alors, ça entraîne des problèmes économiques pour le Royaume-Uni. On l'a vu en début de semaine avec le déménagement des agences européennes, l'autorité bancaire qui va déménager à Paris à partir d'avril 2019, l'agence du médicament à Amsterdam. Est-ce que tout ça, là, le fait que ça commence à devenir concret, c'est de nature à changer la négociation, à l'adoucir un petit peu ou à la durcir, Patrick Martin-Genier?
Écoutez, je crois que les milieux d'affaires au Royaume-Uni, les institutions académiques sont très inquiètes. Je lisais aujourd'hui une tribune du vice-chancelier de l'université de Warwick, à 150 km au nord de Londres, qui sur environ 5500 personnels emploie 800 personnes ressortissantes de l'Union européenne, des personnes qui s'apprêtent, le cas échéant, à partir de ce pays parce qu'elles ne sont plus les bienvenues. Et parce que si on ne règle pas le droit des citoyens de l'Union européenne dans l'université, dans les milieux économiques, cela va avoir des conséquences extrêmement négatives. Et récemment, les milieux d'affaires et le patronat britannique est allé rencontrer la première ministre pour essayer d'obtenir un Brexit qui soit un Brexit plus doux et qui soit favorable aux milieux d'affaires. Et c'est là où la difficulté est présente. Parce que Theresa May le souhaite, Philippe Hammond, vous l'avez dit, le ministre de l'économie le souhaite également, mais pour l'instant, elle n'a pas de majorité, elle n'est pas en situation d'avoir une liste stratégique, et le fait que les deux agences que vous citez quittent le Royaume-Uni, c'est d'ores et déjà plusieurs centaines d'emplois qui n'existeront plus.
Et plus quelques banques qui ont déjà annoncé une partie de délocalisation d'emplois. Est-ce que pour vous, Jean-Yves Lecomte, le fait que ça devienne qu'on soit dans le dur avec des emplois qui partent, est-ce que ça peut changer la nature de la négociation? Est-ce que les Britanniques peuvent se radoucir un petit peu, hein, pour poser la question très clairement?
C'est pas le sentiment que nous avons pour l'instant. Personne n'a la capacité, semblerait-il, en Grande-Bretagne, de savoir exactement, parce que eux-mêmes, je pense, ne le savent pas. Ils ont été surpris comme nous du résultat en juin 2016, et c'est toute la difficulté aujourd'hui de cet exercice. Donc, et c'est pas à nous de les aider. Même si on a absolument, il est préférable d'arriver à un accord, de savoir ce qui se passe derrière. On n'a pas du tout intérêt, nous Français, à perdre nos relations commerciales avec notre premier excédent commercial. On essaye au niveau de l'Union européenne de négocier des accords commerciaux avec des pays qui sont parfois assez lointains, parce que c'est bon pour la croissance et pour les échanges. Et là, d'un seul coup, on risque de se retrouver dans un peu plus d'un an avec aucun accord particulier avec un pays qui est à quelques kilomètres de chez nous. C'est absolument absurde.
Est-ce que la menace, c'est pas une menace parce que c'est pas du tout son style, de Michel Barnier, de dire que finalement les relations commerciales avec le Royaume-Uni seront du même acabit, c'est-à-dire que, selon les règles de l'OMC, du même acabit que celles avec la Chine? Est-ce que ça c'est vraiment crédible, Patrick Martin-Genier?
Alors, il y a une part de tactique de la part de Michel Barnier, qui est face à un mur. Hein, David Davis, effectivement, ne veut pas transiger. Toutefois, j'imagine mal qu'on n'arrive pas à un accord. Je pense qu'on arrivera à l'arracher à un accord. Mais dans toute négociation, il y a effectivement une part de tactique et de stratégie. Je pense que l'objectif de Theresa May, c'est d'essayer désormais d'aller peut-être au-delà de Michel Barnier et de David Davis pour essayer d'entraîner une position politique de la part du Conseil européen qui n'était pas complètement fermé à des négociations pour passer à la seconde phase. Donc je pense que on va pas bloquer les échanges, on va pas bloquer le commerce le 31 mars 2019, on va pas imposer
On a même entendu parler d'avions qui ne décolleraient plus entre la Grande-Bretagne et le continent. Ça paraît quand même assez impossible.
Mais... Les politiques sont quand même responsables, j'allais dire, et on ne va pas faire payer au peuple britannique et donc les erreurs de leurs dirigeants, je pense. Hein. Donc je pense qu'il y aura une part, on va raisonner et on pourra trouver un accord à l'arraché sans toutefois exclure éventuellement.
Ils ont fait les erreurs ensemble.
Pardon ?
Ils ont fait les erreurs ensemble.
Oui, voilà. Mais bon, c'était une politique extrêmement discriminatoire basée sur le mensonge et je pense qu'on, même l'Europe, l'Union Européenne a quand même tout à perdre à ne pas avoir d'accord avec le Royaume-Uni.
Jean-Yves Lecomte, comment ça va tourner tout ça ? Parce que évidemment qu'il y a intérêt pour tout le monde à un accord, mais vous pensez qu'on peut arriver le 31 mars 2019 avec rien du tout et puis on avise?
En plus, il faut des accords qui soient acceptables par tout le monde, parce que les accords, c'est pas Monsieur Barnier et David Davis qui vont se mettre d'accord et puis après ça sera bon. Ils peuvent faire un deal, mais après il faudra qu'il soit ratifié.
Ratifié par tous les États.
Donc il faudra que chacun considère que les accords ont un sens. C'est pour ça que voilà, d'un côté comme de l'autre, il y a des intérêts et des principes à respecter. Ce n'est pas du tout évident compte tenu de la faiblesse du côté britannique, mais finalement aussi de la diversité qu'il peut y avoir du côté européen. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Vous imaginez si la situation en Allemagne continue à durer un petit peu, harmoniser les positions européennes dans cette situation, ça peut être un peu compliqué, surtout si c'est pour finalement essayer de fixer un cap pour l'après. Je crois aussi que sur la période, les Britanniques se sont rendus compte que c'est pas parce qu'ils sortaient de l'Union européenne qu'ils retrouvaient le monde des années 60. Ils ont essayé pendant cette période d'ouvrir des négociations avec l'Inde, avec un certain nombre de leurs partenaires historiques ou supposaient-elles, et ils se sont rendus compte que c'était pas si simple que finalement c'est pas l'Europe ou le grand large, c'est le grand large par l'Europe aujourd'hui, et je pense qu'ils s'en rendent compte, mais comme ce sont ceux qui ont conduit la Grande-Bretagne dans l'impasse qui aujourd'hui négocient le Brexit. Il faut qu'ils gèrent leur amour propre au cas où ils sont conscients.
Alors, on parlait en tout début de cette émission du budget qui a été présenté aujourd'hui à Londres, donc qui anticipe déjà une baisse de la croissance d'un demi-point à 1,5%. On fait des provisions importantes, notamment pour les douanes, qui ne sont absolument pas prêtes à traiter le nombre de dossiers qu'elles vont avoir si jamais on ferme la frontière sans accord. On se rend compte aujourd'hui à Londres que c'est un travail énorme et qu'on n'aura peut-être pas le temps de le faire.
Oui, tout à fait. Je crois que ce budget, c'est un peu de la poudre aux yeux parce que il repose sur aucune donnée tangible, objective. Il dit on va avoir de l'argent pour faire face au Brexit, mais je lisais les réactions à ce budget. Par exemple, le Service national de santé, dont on avait dit qu'il allait récupérer toutes les sommes d'argent qui allaient indûment à l'Union européenne, n'aura que 2,5 ou 8 milliards d'argent, alors que c'est même pas la moitié dont a besoin le Service national de santé. Donc c'est vrai que ça ne repose sur rien et que on est en pleine phase d'incertitude, et présenter aujourd'hui un budget avant le Brexit alors qu'on n'a aucune certitude sur le devenir de la négociation, c'est assez hasardeux.
L'horloge tourne, Michel Barnier voudrait un accord complet pour octobre 2018, c'est son objectif, c'est donc dans moins d'un an, pour se laisser le temps de tout organiser d'ici à la fin mars 2019. Est-ce que c'est possible, dans moins d'un an, d'avoir un accord sur tous ces sujets, Jean-Yves Lecomte ?
Il faut essayer. Maintenant, ça semble effectivement. De toute façon, on peut pas rentrer dans une négociation en affirmant absolument ce qu'on veut pour la fin et en plus un délai, parce qu'à ce moment-là, on est prisonnier.
Il y a plus de marge de négociation.
Il y a besoin d'un peu de bluff. Il y a besoin d'étudier aussi les situations au cas où il n'y a pas d'accord. Parce que finalement, s'il n'y a pas d'accord, c'est le droit de l'Union européenne qui prévaut. On n'a aucun intérêt. On a un intérêt à un accord. Enfin, on a intérêt à bien s'entendre avec nos voisins. C'est tout. Ils veulent partir. Qui nous disent à quelles conditions. Ils respectent le droit qu'ils ont signé. Voilà. Mais tout est effectivement, on peut ne pas avoir d'accord du tout. Et c'est tellement compliqué à mettre en œuvre que de toute façon, faudra faire preuve de pragmatisme au cas par cas.
Merci Jean-Yves Lecomte, merci à vous Patrick Martin-Génier, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à Arthur Tossou, Emmanuel Sévin à la documentation, Valentin Vanner à la réalisation, à Éléonore Krenik qui vous a accueilli. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.